Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous voici arrivés à cette solennité grandiose de la fête de Dieu. Toutes les fêtes sont des fêtes de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est la fête du Très-Saint-Sacrement. La Sainte Eucharistie est le sommet de tous les sacrements. Celui vers lequel les six autres convergent. Tout est ordonné à la Sainte Eucharistie. C'est le plus grand. Ce n'est pas le plus important dans l'ordre, puisque c'est le baptême qui est le plus important. C'est celui qui ouvre la porte à la sainteté, à la grâce, à la sanctification de l'âme, le baptême. Donc le baptême est le plus important, parce que sans le baptême, on ne peut pas recevoir aucun sacrement. Donc c'est la porte d'entrée. Et le plus grand, c'est la Sainte Eucharistie, car il contient non seulement la grâce, comme les six autres, mais l'auteur de la grâce, qui vient réellement sur l'autel, comme sacrifice et comme sacrement dans nos âmes, par la Sainte Eucharistie, par la communion. Quel sacrement, quel grand sacrement. Un sacrement qui est un grand mystère. D'ailleurs, à la consécration du précieux sang, le prêtre penché sur le calice va prononcer ces paroles merveilleuses, « Mysterium Fidei ». Mystère de la foi. On ne s'approche pas avec des yeux profanes de la Sainte Eucharistie, comme un touriste, comme un étranger, comme quelqu'un qui veut voir du merveilleux. Car si, en effet, le Saint-Sacrement est merveilleux, ça n'est pas pour les yeux, car les yeux ne voit rien. C'est étonnant. On va au spectacle pour voir, entendre des choses qui frappent les sens, les oreilles, les yeux, peut-être le nez par les parfums, des fleurs, etc. Mais quand nous nous approchons de la Sainte Eucharistie, c'est plus admirable encore, car ça ne frappe pas nos yeux, mais l'âme. C'est pour cela qu'on ne peut pas arriver au Saint-Sacrement en face de ce mystère avec des yeux de touriste pour voir du spectacle. Non, c'est un mystère de foi, de la foi catholique. Vous avez dû préparer cette messe déjà jeudi, c'était le jour même de la fête du Très-Saint-Sacrement, et l'Église, dans sa bonté maternelle, permet que nous puissions renouveler cette solennité. Enfin, c'est la solennité aujourd'hui, la fête c'est jeudi, la solennité c'est le dimanche qui suit. Donc, c'est merveilleux de pouvoir, comme ça, méditer les grands textes de cette belle liturgie que saint Thomas d'Aquin, par ordre du pape Urbain IV, en 1264, a demandé ainsi que Thomas d'Aquin, composa cet office et la messe, donc le bréviaire, les différents offices du bréviaire, depuis les matines jusqu'aux vêpres, eh bien, sont composés par saint Thomas d'Aquin, et puis toute la messe, avec ses six belles hymnes, Pange Lingua, Laudation, qu'on vient de chanter à la messe, Pange Lingua, que nous allons chanter tout à l'heure durant la procession. Non seulement la musique est belle, mais les paroles sont des paroles de grande foi. Comment saint Thomas d'Aquin a pu-t-il écrire de si belles choses ? À l'époque, il n'y a pas l'intelligence artificielle où Thomas d'Aquin, très puissant, demande à son ordinateur « Compose-moi, Google, un condensé de la foi chrétienne. » Ça, ça ne fonctionne pas. C'est artificiel. Et on est dans un monde, hélas, artificiel. Mais comment saint Thomas d'Aquin a-t-il composé toutes ces merveilles que nous pouvons lire et méditer ? Dans les livres, sans doute, il a repris les auteurs, les docteurs, les pères de l'Église, la Sainte Écriture, ce qu'avaient écrit avant lui les papes, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Il a prié. Il a prié. Et l'histoire de saint Thomas d'Aquin nous raconte que lorsque ce grand dominicain, puissant, docteur commun de l'Église, ce n'est pas n'importe qui, l'Église en a fait son docteur commun, ce n'est pas un docteur particulier, un docteur commun, donc pour toute l'Église universelle, quand saint Thomas d'Aquin ne comprenait pas un mystère, les mystères restent toujours des mystères, bien évidemment, mais quand saint Thomas buttait contre une vérité qu'il n'arrivait pas à décortiquer, à expliquer, que faisait-il ? Il priait. Il montait à l'autel, ouvrait le tabernacle, mettait sa tête dans le tabernacle. Ce n'est pas à imiter, mais c'est quand même à imiter, en pensée, en esprit. Il voulait être le plus proche possible de notre Seigneur Jésus-Christ, présent réellement dans le Saint Tabernacle. Comme c'est beau. Imitons en esprit ce que faisait Thomas d'Aquin. Quand nous avons, non pas un doute, car il n'a pas eu de doute sur la vérité révélée, mais quand il voulait expliquer à ses élèves, parce qu'il y a eu beaucoup d'élèves, il a enseigné la Sorbonne et ailleurs. Donc quand il voulait expliquer quelque chose d'ardu, il venait près du bon Dieu. Il priait. Quelle leçon ! Quelle leçon ! Et c'est tellement important qu'il faut imiter ce grand docteur de l'Église, le plus grand de tous les docteurs que l'Église a reconnu comme docteur. Il méditait, il mettait sa tête, c'est-à-dire tout son être, près du Saint-Sacrement, pour adorer ce mystère de ce Dieu, de notre Dieu, notre unique Dieu, fait homme pour nous, fait chair, fait nourriture pour sustenter nos âmes qui sont si pauvres sans lui. Sans lui, nous sommes démunis de tout, nous sommes perdus, mais avec lui, nous sommes rassasiés, nous sommes comblés de bien. Ce mystère de la Sainte Eucharistie, mes chers frères, est un mystère de foi. Je l'ai dit tout à l'heure, à la consécration du précieux sang, le prêtre récite ces paroles « Mysterium fidei ». C'est un mystère. Donc, quand c'est un mystère, il faut nous approcher avec grande révérence, avec adoration, avec un grand silence intérieur. Car le bon Dieu parle dans le silence. S'il y a du brouhaha, du bruit extérieur, mais pire encore, intérieur, alors le bon Dieu n'arrive pas à nous parler. Ça n'est pas qu'il ne parle pas, mais il n'est pas entendu, parce qu'on parle en même temps que lui. Et dans ce mystère de la Sainte Eucharistie, comme pour tous les mystères, on s'approche de Dieu dans un grand silence. Et alors le bon Dieu parle, dans l'oraison, dans la contemplation, la méditation de ces belles choses, Magna Lia Dei, les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. L'Eucharistie est un monument de la foi. Ici-bas, quand Jésus vivait avec ses apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ était visible, non pas comme Dieu, car c'est impossible, ici-bas de voir Dieu et vivre encore. On a cet unique témoignage des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui, à la transfiguration, voient notre Seigneur Jésus-Christ transfiguré, justement, et que voient-ils ? Rien. Ils tombent à la renverse, ils sont éblouis par ce visage de notre Seigneur Jésus-Christ transfiguré. Ainsi, ici-bas, durant 33 ans, Jésus-Christ a caché sa divinité. Maintenant, il fait encore plus, il cache son humanité. Nous voyons dans la Sainte Eucharistie, dans l'hostie, dans le calice, on voit du pain et du vin. Mais la foi nous enseigne que ce n'est plus ni du pain ni du vin. Il y a une transsubstantiation, un changement de substance. Les accidents demeurent, la rondeur de cette hostie, l'épaisseur, le poids, le goût et toutes les qualités que nous voyons, mais les accidents demeurent, la substance est changée. Mystère, transsubstantiation. C'est un terme du Concile de Trente qui a voulu préciser contre tous les hérétiques précédents la réalité de ce mystère, transsubstantiation, changement de substance. Donc, il nous faut la foi pour croire, car avant la consécration, après la consécration, nos sens manifestent la même chose, du pain. Mais avant la consécration, on ne s'agenouille pas. Après la consécration, on s'agenouille. Donc le corps manifeste extérieurement ce que l'âme croit. Il y a cette unité dans notre être humain. Le corps participe à cette adoration intérieure puis extérieure. C'est aussi pour cela que nous faisons cette procession du Saint-Sacrement. Et saint Thomas d'Aquin, dans cette belle séquence de l'Odation, dit « Sit sonora, sit jucunda, mentis jubilatio » que cette acclamation soit sonore, cette jubilation soit extérieure, il faut jubiler, que ce soit sonore. Ce n'est pas du bruit pour du bruit, mais c'est un chant sonore. Le corps participe à cette joie intérieure. C'est normal. Et c'est pour cela que nous faisons ces processions, pour manifester extérieurement l'adoration intérieure. Une adoration publique. Il faut que notre Seigneur Jésus-Christ soit vu extérieurement. Ce n'est pas du spectacle. Ça n'est pas du spectacle, mais c'est une adoration qui est due à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que cette louange soit sonore, même si on n'est pas des milliers de personnes, peu importe, il faut que notre chant soit un chant vrai, qui corresponde à notre amour profond pour notre Seigneur Jésus-Christ. Sit sonora, sit jucunda. Il faut que ce chant soit non seulement vrai, mais joyeux. La joie, dit saint Paul, est une conséquence, est un fruit du Saint-Esprit. La charité, la paix, la joie chrétienne. Nous sommes heureux, nous sommes joyeux. La joie n'est pas l'exubérance, parce que ce n'est pas une fête profane. La joie est quelque chose de spirituel. Et en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, notre joie, elle est réelle. On est joyeux de pouvoir honorer publiquement notre Seigneur Jésus-Christ. Notre foi, c'est notre foi qui nous incite à ce que notre chant soit sonore, profond, joyeux, vrai. Parce que nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi est très importante dans ce sacrement de la Sainte Eucharistie, mystère de foi. À cette foi, il faut allier également l'espérance. L'espérance. Par cette vertu, nous avons la ferme confiance d'obtenir le bonheur du ciel éternel et les moyens pour y parvenir. Notre Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il veut nous donner le bonheur du ciel. Il nous donne les moyens pour y parvenir. La Sainte Eucharistie nous communique une espérance invincible. Nous sommes assurés fermement que Dieu est présent au moment de la consécration. C'est la foi qui nous conduit à ces convictions. De cette conviction, nous sommes confiants pour notre éternité. Notre Seigneur l'a dit, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et moi, continue-t-il, je le ressusciterai au dernier jour, l'espérance du ciel, par la Sainte Eucharistie. Tout est dans l'évangile. Et les commentateurs n'ont eu qu'à prendre l'évangile et voir les conséquences de la parole divine. Dieu ne se trompe pas, il ne trompe pas, c'est l'espérance. Y a-t-il des mots plus consolants que cela? Mais bien, chers frères, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. C'est l'espérance chrétienne, la vie pour l'éternité, la vie divine dans mon âme, commencée dès ici-bas. Enfin, après la foi, l'espérance, bien sûr, c'est la charité. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent et il veut s'unir à nous. Voilà la charité, l'union de nos âmes à sa divinité, la communion, union intime entre lui et nous. C'est extraordinaire. Qui sommes-nous pour que le bon Dieu puisse nous aimer tant, venir ici-bas déjà en Palestine il y a 2000 ans et continuer de vivre avec nous tous les jours jusqu'à l'éternité? Il n'y a que Dieu qui ait pu imaginer une telle réalité par charité pour nous. Et saint Paul a bien compris la chose en disant « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Une union sublime lorsque nous nous approchons de la Sainte Table. Il est très difficile, voire impossible, de décrire la charité de Dieu. Mais il faut donc adorer, car le mystère demeure le mystère. On peut expliquer, on peut détailler, mais il faut à un moment donné nous agenouiller et adorer le bon Dieu. C'est ce que nous faisons quand nous recevons la Sainte Eucharistie. Et les anges au ciel se contentent de réciter pour toujours ces mots que nous chantons au début du canon de la messe. Sanctus, sanctus, sanctus. Dieu est saint, trois fois saint. Eh bien, chers frères, nous avons encore plus de grâce, de bienfaits que les anges. Les anges n'ont jamais communié, mais nous, oui. Dieu n'a pas permis que les anges puissent communier. Les anges sont de purs esprits, ils sont faits comme cela, mais nous ne sommes corps et âme, et nous pouvons communier. Et nous avons cette particularité que n'ont pas les anges, c'est communier. Au ciel, bien sûr, nous ne communierons plus, mais ici-bas, communion, avec beaucoup de dévotion, de recueillement, de ferveur, même si nous ne sentons pas la ferveur. La foi, ce n'est pas une question de ressenti, c'est une question de vérité. Je crois, j'adore, j'espère et j'aime le bon Dieu. Du bon Dieu nous admet à ce banquet sacré. Il remplit nos âmes de sa grâce, nous donne le gage, l'assurance de notre gloire future. Les mots sont de saint Thomas d'Aquin. Tout est là aussi. Le gage de la vie future. L'espérance, par conséquent. L'assurance de notre gloire future en ayant communié ici-bas. Avec la Sainte Eucharistie, nous sommes déjà au ciel, puisque Jésus vit en nous. Ravivons, à l'occasion de cette solennité, de la Sainte Eucharistie, bien chers frères, ravivons en notre âme ces trois vertus si importantes. La foi, je crois en Dieu, j'adhère à toutes les vérités qu'il m'a révélées. J'espère dans ce ciel, et le gage de ce ciel, c'est la communion. Et j'aime le bon Dieu, par-dessus toute chose créée. Dieu, premier servi. Eh bien, chers frères, si nous vivons ainsi, nous allons croître de jour en jour en vertu, dans toutes les vertus, que parfois nous avons tant de mal à pratiquer. C'est quand même bizarre. Nos vertus, parfois, stagnent. C'est que nous ne faisons pas assez attention à la présence de Dieu dans nos âmes. Et nous piétinons. Parfois, nous reculons. Alors que Dieu est dans nos âmes. Il faut croître dans toutes les vertus. Pas seulement, c'est sur les plus importantes, évidemment. Foi, espérance, charité, mais toutes les vertus sont importantes. Et par la Sainte Communion, nous croissons de jour en jour dans la vertu, dans la possession du bon Dieu. Et puis nous pouvons aussi faire des communions spirituelles, communions sacramentelles quotidiennes, si possible, et ça n'est pas toujours possible, bien évidemment, mais communion spirituelle, et là, c'est donné à tous, et pas une seule fois, mais plein de fois par jour, autant de fois qu'on veut. On s'unit à Dieu, spirituellement, et ainsi nous croissons en vertu, jusqu'à ce que notre corps se détache, notre âme plutôt, se détache de cette enveloppe si fragile qu'est notre corps, pour rejoindre le bon Dieu pour toute l'éternité. Mais bien, chers frères, que notre louange soit sonore, que notre joie soit pleine, entière, parce que Jésus vit en nous, veut vivre en nous. Demandons ces belles grâces à notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Demandons aux saints du ciel qui, ici-bas, ont aimé le bon Dieu, ont communié, ont lutté vaillamment contre leurs défauts, sont arrivés à l'union parfaite avec notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons aux saints que nous aimons, nos saints patrons, Saint Joseph, bien évidemment Notre-Dame, qui, après la Passion, la Résurrection, la Pentecôte, a vécu auprès de Saint Jean. Et Saint Jean lui donnait la Sainte Communion. Elle communiait de la main de Saint Jean. Elle a communié elle-même. Eh bien, demandons à Notre-Dame qu'elle nous aide à bien communier, à ce que notre vie soit une union la plus parfaite possible avec son divin Fils. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.